Vous êtes bien à l'écoute de Radio Canus sur 102.2, 21h passées de 3 minutes, la plus rebelle, la lumière du frigo, édition 546, bonsoir. Tout de suite cette émission avec Cat John Band. Il s'agit de John Langford, un guitariste que je ne connais pas. Par contre, à la batterie, il y a Kate de ZX, Kathleen. Voilà, un duo pas à la hauteur des espérances que j'avais, mais bon, il y a quand même quelques titres sympas comme ce premier qui démarre. On se retrouve un peu avant 22h.
I love it. Do you? Do you? programmes militaires qui sont testés sur des cobayes humains, des rats de laboratoire. Nous sommes les rats de laboratoire utilisés pour tester ces programmes. Voilà. Ces épandages aériens de produits toxiques ont lieu absolument partout. Donc, ils ont lieu bien sûr au-dessus des villes, particulièrement au-dessus de Paris. Moi, j'habite Paris, donc je le vois tous les jours. Le ciel est gris. Il y a très rarement des jours avec ciel bleu.
Ça peut être la pollution aussi, tout simplement.
Alors, vous avez raison, il y a une part de pollution, ça c'est certain. Cette pollution ne suffit pas à expliquer l'état actuel du ciel.
Donc, toutes les hypothèses sont possibles, y compris celle de l'épandage d'antidépresseurs au-dessus de Paris, au-dessus des grandes villes, pour relancer un peu la croissance et puis jouer sur l'humeur de ce peuple parisien qui est franchement déprimé, là.
Eh bien, vous savez, la dépression, ça a souvent rapport avec la santé. Donc, à partir du moment où on empoisonne les gens avec ces épandages, oui, ça relance la croissance, mais la croissance des tumeurs cancéreuses. Ça, c'est sûr.
Mais est-ce que c'est envisageable, cette idée aussi, justement, de jouer sur l'humeur d'un peuple?
Eh bien, malheureusement, il semblerait que l'humanité se serve des progrès dans un sens plutôt négatif que positif. Hélas, hein, je suis d'accord. Donc ça va dans le sens de ce qu'on appelle le mind control. Bon, après, on va dire que je suis complotiste et je répondrai peut-être, absolument. L'histoire du monde, l'histoire de l'humanité, c'est une succession de complots. Alors, voilà. Alors nier le complot, c'est nier l'histoire, tout simplement. C'est un déni de réalité.
Repeat. La douleur, vous savez, c'est psychologique, je crois. Hein. Je me cognais à peine le coude à la maison, j'en faisais tout un drame, j'engueulais ma femme, alors que là, bon voilà, je me suis fait mal, c'est un peu de ma faute, mais en même temps, voilà, il était tellement sympathique. Allez-y, monsieur. Regardez si c'est pas mignon, avec le sourire. Mais t'as regardé là, un tandem. Ouais, c'est quand même rare en Paris, si c'est pas beau ça, hein, ce beau petit couple. Les Autolib. Franchement, merci monsieur Delanoé. Hein. C'est lui, hein, je crois. Ouais, ouais, c'est lui.
Avant, quand je regardais ce truc là, ce piano là, avec ses dents toutes blanches là, et on dirait un tombeau, c'est un piano, c'est un cercueil, hein. Vous l'ouvrez, vous le fermez, et il faut le faire parler en plus, vous voyez. Et avant, quand je le regardais, je me dis bon, c'était comme une espèce de il me mettait au défi. Maintenant, j'ai l'impression de rejoindre un copain. C'est incroyable. Salut. Ben voilà. Maintenant, j'ai une relation. Je dirais pas charnelle à mon instrument, mais une relation qui est une relation réelle de franche amitié, et pas une relation où vous êtes angoissé d'avoir à lui faire dire les bons mots.
Souvent, il y a des espèces de marqueurs comme ça qu'on impose, on fait des décomptes.
Là, on peut compter, 1, 2, 3. Normalement, ce silence immédiat, on obtient ce qu'on veut. Ils savent qu'après, c'est une limite à pas dépasser. C'est vrai qu'en ce moment, c'est difficile, hein, mais avec une nocturne combinée à l'insomnie. Là.
Bah, l'insomnie, alors c'est quoi, j'ai des épisodes, effectivement, je me réveille pendant la nuit, puis je ne me rendors pas avant 6, 7 heures du matin, pour les emmener à l'école à 8 heures après. Ouais, facile 10 jours.
Ce que vous vivez là, ça rappelle quand même un peu les effets secondaires dès les premières semaines de prise antidépresseur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce complot. Là. On parle beaucoup de ça sur les réseaux sociaux en ce moment. Il y aurait des avions de l'armée française qui disperseraient des antidépresseurs par voie aérienne au-dessus de Paris pour jouer sur l'humeur des Français et éventuellement relancer la croissance. Est-ce que vous avez entendu parler de ça?
C'est un peu ridicule quand même. C'est à peu près aussi crédible que le bus sur le Pentagone pendant le 11 septembre ou les traînées chimiques
c'est
des avions.
Quand,
Trois semaines.
Si vous voulez, on va passer en revue ces effets secondaires qui sont liés là, au début de la prise d'antidépresseur. Par exemple, si on parle de vertige, est-ce que ça sonne des cloches chez vous?
Ah, si, l'autre jour, là. Tu te souviens? Quand on partait chez ma mère.
Ça me dit rien.
Mais si, au moment de monter dans la voiture, j'ai dû m'agripper.
Oh, mais t'as ça de temps en temps. Tu dis, je me suis levé trop vite. Et tu te rassois.
Voilà, j'ai le truc. C'était assez violent.
Insomnie?
Non.
Là, c'est sûr que c'est un peu corrélé, parce que ça fait 8 jours que j'ai pas dormi. Maintenant, je pense que les causes sont ailleurs et que c'est pas du tout lié à un complot de l'armée.
Les difficultés des enfants qui se réveillent la nuit, forcément, ça perturbe le rythme.
Un autre effet secondaire lié au début de la prise d'antidépresseur, c'est l'hyperhydrose des mains et des jambes.
Et ma main, les pieds poitent.
Ouais, mais enfin, ça, j'ai toujours une vie.
Ouais, enfin, t'as eu, mais l'autre jour, t'as laissé tomber Alice.
J'ai pas laissé tomber. Elle m'a un peu échappé, j'ai réussi à la rattraper par le bras. C'était pas...
Elle lui a glissé des mains. Oui, là, on peut parler d'hyperhydrose des mains.
Effectivement, on sortait du bain, mais elle était un peu... Je l'avais séchée.
Ah, non, mais tu rappelles-toi, t'en revenais pas. Tu l'as vraiment... Elle t'a glissé des mains. Ouais.
On parle également de tendance suicidaire liée à la prise d'antidépresseur.
Non. Je comprends les espèces de vertiges suicidaires, en tout cas de fuite en avant comme ça, parce que c'est vrai que c'est il y a des situations dans lesquelles, par exemple en voiture, quand tu es en voiture et tu dis d'un coup, là tu donnes un coup de volant et on disparaît tous. Ça m'est arrivé récemment en voiture de réfléchir à ça, de me dire tiens c'est marrant, si jamais j'accélère un coup et que... Non. C'est-à-dire que je voulais pas le faire, mais je réfléchissais à ces gens qui pouvaient se mettre dans cette situation. Où t'es à 130 sur l'autoroute, mais t'accélères.
Avec les enfants dans la voiture.
Oui, c'est le genre de situation où, effectivement, si tu vas trop loin et que tu dérapes, c'est terminé pour tout le monde, c'est fini, c'est tout disparaît. C'est vrai que ça fait flipper, quoi. Évidemment,
il s'agit. J'étais tenté de donner ce coup de volant.
Non,
mais pas Mathieu, écoute.
Un autre effet secondaire notoire lié à la prise d'antidépresseurs, c'est la baisse de libido chez 80% des sujets, quand même. Ça vous concerne, ça?
C'est
pas
personnel, ça, quand même. On est fatigué, là.
Oui, on est fatigué, c'est ça. On est fatigué, et c'est vrai qu'on est moins attiré. Enfin, il y a moins d'attraction et on est plus occupé par d'autres choses, quoi. C'est... Enfin, en ce moment, c'est un peu ça, quoi.
Oh, voilà. Ça va?
Oui, ça va. Effectivement. Quand on se couche, on va moins loin l'un vers l'autre et on va...
C'est bon, Mathieu. Voilà, oui. Tu bandes mou, c'est ça que je veux dire. Voilà, il bande mou. Il bande mou.
C'est bon. C'est pas...
Tu bandes mou.
trois nœuds, la lumière du frigo, édition 546.
Assez d'audience ce mercredi soir sur Canu, il a vu les pics d'audience qu'on faisait, il s'est dit bon je vais m'accoster.
Vous écoutez Radio Canu 102.2. Méga combi.
Beaucoup de talent ce frigo.
Bon, pas très sûr de lui des fois mais...
Enfin, heureusement qu'on l'a quand même propulsé sur le devant de la scène quoi, je veux dire.
Puis on lui a appris à faire plus court aussi.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
La lumière du frigo, une émission d'impro sonore qu'on retrouve tous les mercredis à 21h sur Radio Canu.
Et oui, de temps en temps, le frigo est dans la méga combi le mercredi à 18h. Et on va enchaîner cette émission avec des archives qui datent de décembre, février, non, janvier même, janvier 2012. La lumière du frigo, édition 546.
Des fois, jusqu'à 150. Deux heures et demie, trois heures.
Écoute, quel sommeil là ?
Sommeil, quand il y a du poisson, il n'y a pas de sommeil. Sûrement, les 24 heures, c'est du. Le même sûrement au début de
bon alors le prix des gringoles
là on le prix catégorie par catégorie le poisson blanc et la dorade comme c'est dans les paniers la reine les deux noirs les roussettes on met dans un parc derrière et on les étripe et on les met dans un autre parc à côté et là on les lâche. Après, on étripe le poisson blanc, oui. Le poisson blanc, c'est merluchon, merlu, l'aliment aussi. Un couteau de poche, on a.
Vous êtes toujours en train de les affiner.
Il coupe chevet. Le merluchon, il avait un par oui. Et merlan, la dorade, c'est pas lavé. C'est pas sale. On descend dans la cale. De glace 10 cm. Une couche de poisson, une couche de glace. De glace, on tombe, toi.
Oui, la glace est renouvelée absolument. Alors, chaque marée.
Ah, il faut démarrer, on fait la glace.
Dans les 5 de pêche.
Ouais, 6-7 jours de pêche, effectivement.
Et vous rapportez combien de caisses?
Ça dépend des marées. 40 tonnes, 45 tonnes, ça dépend. 48, t'en as vu?
Et les conditions de pêche dans le Nord?
Le temps est très dur. Nous avons vu l'hiver dernier, on peut compter les journées de beau temps. Mais c'est surtout le vent. Les tempêtes, on en ramasse. C'est très très dur, très très dur.
Et vous tenez 6-7 jours comme ça?
Non, parce que le poisson arrive.
Mais quand même.
Il y a les coupures là-dedans, ça arrive. On a vu durer comme 48 heures, 72 heures. Et pour nous, c'est notre avantage de tenir.
Bien sûr. Et l'homme?
Tâche de faire comme on peut. On étale, mais l'homme.
Le travail dans les tempêtes, le bateau, vous remuez alors pour étriper tout ça?
Avant de refiler le chalut, nous trions le pain. Nous sommes obligés. Autrement, tout coup de chalut serait perdu pour nous. Hein. Le poisson passerait par cette bourse.
Emmené par les
vagues de mer.
Non seulement encadrer la pêche, mais le poisson, il est escalé. Plus ou moins, il est tossé d'un bras, tossé de l'autre. Le poisson est escalé, c'est ça.
Plus on pêche. Le système de rémunération, ici, c'est un système, comme dit, à la part. Et sur 100 francs, l'armateur a droit à 65 et l'équipage, la totalité de l'équipage, a droit à 35 francs.
Attention, please. At the recommendation of the International Time Journal. Do you know how many time zones there are in the Soviet Union?
We got so much power now. That's ridiculous.
Do you know how many time zones there are in the Soviet Union?
Power and all that. That's power. We got so much power. That's ridiculous.
We have
power now.
Time zones there are in the Soviet Union?
It's not even funny. That's ridiculous.
You know how many?
It's not even funny. That's ridiculous.
You know how many?
That's ridiculous.
You know how many times?
That's ridiculous. It's not even funny.
You know how many time zones there are in the Soviet Union?
It's not even funny. How many time zones?
Yeah. We have four in this country, right?
How many time zones?
Yeah.
Separate.
émission d'impro sonore qu'on retrouve tous les mercredis à 21h sur Radio Canu.
Attention, club première.
De nos jours, l'image est reine et triomphe sur les écrans, petits et grands. Miracle renouvelé dont la présence familière nous a peut-être fait oublier de quelle longue et dure recherche elle fut l'enjeu. Pour tous ceux qui n'ont pas connu cette quête obstinée vers la découverte de l'image animée, nous avons voulu, le temps de quelques heures, opérer de nombreux arrêts sur image. Contrairement à une croyance assez répandue, le cinéma n'est une invention ni de notre temps, ni d'un seul individu. Il est plutôt l'aboutissement d'une myriade de petites inventions échelonnées sur plus de 200 ans et qui se précisent tout au long du 19e siècle. Le cinéma brasse bien des destins humains ou des drames individuels. L'anglais Fraser Green a fait de la prison pour dette. Le milliardaire américain Eastman s'est suicidé d'un coup de pistolet. Le français Reynaud a jeté ses appareils dans la Seine et fini ses jours dans un asile d'aliénés. Heureusement, cette longue succession d'inventions se fait la plupart du temps dans un contexte moins violent, dans le secret des laboratoires et la saine émulation des lieux d'amusement et de spectacle. Mais suivons notre spécialiste des premières machines à rêve.
Le cinéma naît de la conjonction positive de trois secteurs principaux de recherche. La photographie, la reproduction sur un écran ou projection, et la machine humaine à travers le mécanisme de la vision.
Et la projection alors ?
Oh, elle existe depuis la nuit des temps. Au fil des siècles, les ombres chinoises ont émigré de l'Extrême-Orient et se sont enrichies des thèmes empruntés aux traditions locales. Au XVIIe siècle, on utilisait couramment la lanterne magique. La structure est la même que celle des projecteurs actuels de diapositives. Les spectateurs frémissaient devant les effets surnaturels et terrifiants des images qu'ils voyaient. Cela a été un beau prélude aux frissons que procureront les films d'épouvante du XXe siècle. La chambre noire constitue le premier élément qui emmena les hommes à la pellicule telle que nous l'utilisons aujourd'hui. Appliquée à la lanterne magique, elle date du XVIIe siècle. Elle permet de projeter la lumière extérieure, solaire, dans une pièce plongée dans le noir. Généralement, on considère le mathématicien danois Wallenstein et sa lanterne à projection, présentée à Rome en 1660, comme point de départ du long chemin qu'ont parcouru les inventeurs successifs de la photographie. En 1802, l'anglais Wedgwood définit la photographie comme moyen de fixer des images à l'aide de la chambre obscure, par une substance sensible à l'action de la lumière. Mais c'est le français Nicéphore Niépce qui applique concrètement cette intuition solitaire. En effet, dès 1822, il réalise déjà des images durables en se servant d'une plaque d'étain couverte de bitume.
Le temps d'exposition,
lui, c'est le moins que l'on puisse dire. La durée d'exposition était de 8 heures, et en plus, cela, s'il vous plaît. Mais rassurez-vous, les années suivantes ont vu se succéder des inventions tendant à diminuer ce temps de pause et aussi la lourdeur des appareils et des supports de l'image. Tenez, l'exemple type est celui de Daguerre, passé aujourd'hui à la postérité. En 1839, il vend son procédé sur plaque de cuivre sensibilisée au gouvernement français. Il s'agit du daguerreotype, bien sûr, qui abaisse le temps de pause à 3 minutes. Mais savez-vous quand apparaît réellement le mot photographie?
Parce qu'il n'existait pas encore à l'époque.
C'est un anglais qui l'a inventé, je crois.
Vous y êtes. C'est Herschel, un astronome anglais qui baptise du mot photographie ses premières images fixes. On est alors en 1839. Quelques années plus tard, les frères Yap, un peu nord-américain, se servent de la découverte des matières plastiques faites en Angleterre. Ils mettent au point une nouvelle substance souple, et en même temps rigide, qui est capable de recevoir l'émulsion sensible à la lumière. C'est le Cellulite. Le photographe anglais Louis Bridge commence ses expériences photographiques sur des objets en mouvement vers 1872. Deux ans plus tard, Johnson, lui, fabrique un revolver. Un revolver photographique, bien sûr. Quant à Étienne Marais, il enregistre les positions successives d'un personnage qui se déplace sur un fond noir. En 1887, il obtient des images sur pellicule en celluloïd rigide qui réalise d'une façon à peu près parfaite l'analyse du mouvement. Mais Marais se bat toujours dans l'impossibilité de les projeter. Et maintenant, parlons caméra. Aux USA, en 1891, Edison et Dixon inventent une caméra qui représente la conjonction des deux phénomènes différents, l'un optique et l'autre chimique. Edison a l'honneur et le privilège de présenter son stéthoscope à l'exposition universelle de Chicago en 1893. Il montre des images animées qui ne sont pas projetées sur un écran, mais enfermées dans une sorte de boîte munie d'un oculaire et sur lequel les visiteurs se penchent pour en être le spectateur. En France, Démény combine en 1891 l'appareil de Marais avec le tambour magique. Il obtient le phonoscope, qui projette l'année d'après le premier gros plan d'un visage qui articule les mots « je vous aime » de façon, disait-on, lisible pour un sourd muet. Et c'est ainsi que Démény a dépassé son maître Marais et a frôlé de très près l'invention des frères Lumière. Passons au cinématographe maintenant. Il relève en fait d'un principe qu'il fallait d'abord découvrir, à savoir la perception du mouvement. Il repose également sur les procédés d'analyse et de système du mouvement dont la cadence rapide permettait de restituer pour l'observateur l'impression de choses animées. Et vous savez, ou peut-être l'ignorez-vous, que cette restitution n'est possible que grâce à une faiblesse de notre œil. La persistance des impressions rétiniennes. Or, ce principe, selon lequel une image continue à être perçue pendant une brève période qui suit l'observation, était déjà connu dans l'Antiquité. Cela a donc facilité bien des recherches. Dès les premières années du 19e siècle, dans les milieux scientifiques, on peut noter un renouveau d'intérêt pour les problèmes posés par le mécanisme de la vision. Et il va sans dire que les recherches vont de pair.
Il est 21h passé de 57 minutes à la pendule de Radio Canu, les dernières minutes de l'émission, et même tout de suite la désannonce. Commencer cette émission avec Kate John Band et puis ensuite la suite du reportage d'Arte Radio que j'avais diffusé la semaine dernière, le ciel de Paris, tout ce qui tourne autour du ciel, des complots, des oiseaux, des avions et des pianistes. Faut trouver le rapport. Quoi qu'il en soit, c'était complet avec Greg Hens, donc du drone, musique planante, extrait d'un coffret de 3 CD, ça c'est le premier. Un autre coffret que j'avais déjà diffusé, dont j'avais déjà diffusé un extrait la semaine dernière, il s'agit de The Connect Project, des enregistrements d'ondes sonores, d'ondes radio, en tout genre, et puis DJ Cam, ensuite petit moment jazzy, trip-hop, c'était extrait de l'album Substance. J'allais oublier, durant la première partie de l'émission, extrait de Brahms Quatuor à cordes numéro 1. Tout ça nous avait emmené avec les Chipping News. Superbe disque One Less, Earth Less to Fear, le dernier en date qui doit déjà avoir, je sais pas, quelques années. Et on a écouté le titre Axon and the Zext, et puis ensuite des archives du frigo. Alors des choses non identifiées, hein. Il y a eu Klaus Schulz, et puis peut-être Hélène Monet, ouais, vaguement quelque part, le métro de Tokyo, ça c'est encore Arte Radio. Et puis quelques trucs dont j'ai pas reconnu ce que c'était, et j'ai trouvé ça vachement bien. Voilà, ensuite dernière petite séquence avec les Space Aids, avec quelque chose d'assez planant. Et puis le cinéma des origines à 1939, donc c'est un coffret de 5 CD avec plein de choses diverses et variées. Ça parle du cinéma, ça parle beaucoup, hein. Alors à voir les autres CD si c'est le même style, mais voilà, plein de voix. Et puis je crois que c'est tout, 22h pile à la pendule de Radio Canu. Boulimix n'est pas encore là, peut-être un autre morceau de Catherine de ZX. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, salut.
Up in the flannel, yet colder than